Didier Mouly, pour cette troisième partie, il y a encore des grands projets que l'on n'a pas évoqués.
Sur l'agglomération, il y a de gros projets. On pense à la protection des personnes et des biens sur le REC de Veyret et le REC Lastinos, par exemple, c'est un grand projet qui va modifier notre territoire. C'est comme le trait de côte qui va modifier aussi notre territoire.
Oui, ça c'est pour le bord de mer, mais revenons-en à Montredon. Donc il y a un projet d'un barrage, une retenue d'eau, je ne sais pas exactement quel est le terme.
Un écréteur de crue,
voilà, ça c'est joli et c'est peut-être un peu plus significatif, mais cet écréteur de crue a quelques difficultés à entrer dans les têtes et à être accepté. J'en crois ce qui se dit aujourd'hui.
Notre département a subi de très nombreuses attaques météorologiques depuis notamment 1999 et récemment encore. Des vies, des biens ont été perdus et le cas de inondation par vague, par crue, a touché beaucoup, beaucoup d'habitants du département de l'Aude. Ce n'est pas que dans l'Aude, dans d'autres départements en France et dans d'autres pays. Mais si on s'en tient à notre département, on s'aperçoit qu'à côté de nous, aux portes de notre territoire, beaucoup de personnes ont disparu à cause de l'eau. Les techniciens, dont je ne fais pas partie, précisent que des crues sur le REC de Veyret ou le REC de Lastinos vont peut-être être dues à ces phénomènes météorologiques et générer des sinistres tels que la perte de 8500 personnes sur Narbonne ou de millions d'euros de biens sur la commune de Narbonne. Pour arriver à protéger ces populations et ces biens, un barrage écréteur est envisagé sur la route de Fontfroide à Castellas, ce fameux château dont il ne reste qu'un pan de mur. Unanimité des viticulteurs qui comprennent l'importance de ce bassin et de ce élément écréteur de crue, ce barrage écréteur de crue, et donc qui se soumettent à cette nécessité pour protéger la ville. Tollé de la part des chasseurs, parce qu'ils découvrent tout d'un coup qu'on va leur enlever une partie du territoire de chasse. Je n'en vois pas le rapport entre 8500 personnes à protéger et quelques hectares de terre qui sont aujourd'hui soumis à une possibilité de chasse. Du coup, les habitants de la commune de Montredon, puisque ça se situe sur la commune, mais qui ne sont pas impactés visuellement ou matériellement ou dans un flux de circulation, vont se mettre à réfléchir pour savoir s'ils sont pour et contre. Mais ils ne se préoccupent pas, ces habitants de la commune de Montredon, de savoir si les zones d'activité qui ont été faites sur leur territoire et qui touchent directement leur commune, leur village, leur lieu d'habitation ou de loisirs, impactent ou pas. En pollution sonore, en pollution de l'air, en nuisance de circulation, en complication, en augmentation du risque d'accident, etc. Non. Ils vont se préoccuper au fond du Castellas de savoir si le barrage écréteur de crue va être une nuisance pour eux ou pas. Non. Non, c'est une évidence. Certes, c'est un tènement de terre qui va être d'une hauteur importante avec une déviation de la route qui mène à Fontfroide. Mais c'est quand même un ouvrage qui va protéger 8500 vies. Pour moi, c'est l'essentiel. Et tout le tollé qui est sorti d'un référendum ou d'une délibération du conseil municipal me heurte et me choque. Donc je pense que ce projet qui est monté par le syndicat mixte du Delta de l'Aude dans le cadre de la protection de la population verra le jour et que ce projet qui est aujourd'hui en étude de réalisation verra dans quelques années cette réalisation.
Voilà, donc on reviendra dessus, mais sachant que ça n'est pas le seul projet qui est sujet à polémique, mais celui-ci est bien parti pour l'être.
Vous en avez un grand projet, c'est la desserte par la ligne à grande vitesse, la LGV, qui aujourd'hui coûte de l'argent au Grand Narbonne puisqu'on participe aux enquêtes publiques et aux études, et on n'en verra la réalisation que dans plus de 20 ans. Donc on dit aujourd'hui que c'est un mal nécessaire de dépenser de l'argent pour en desservir dans le temps notre territoire. Mais demain, il va y avoir tout d'un coup des personnes qui vont être contre cette desserte de notre territoire pour, puisqu'on est sur l'arc méditerranéen, puisqu'on est sur l'axe de Montpellier-Bordeaux. C'est là où je dis qu'il y a des contradictions dans les comportements. On veut être desservi, mais on ne veut pas avoir de contraintes.
Oui, bon, il faut choisir, et choisir avec une certaine jugeote peut-être.
Il faut un recul sur et arrêter de mettre de la passion, mettre de la raison plutôt.
Oui, bon, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors justement, en tant que élu, donc maire de la ville, mais également président de l'agglomération, vous êtes toujours aux premières loges, forcément. Et alors, il y a une conception, forcément, chacun a sa conception de la gestion d'une communauté d'agglomération, puisque, rappelons-le, on n'est pas élu directement au suffrage universel comme pour une commune, par exemple, ce qui change un petit peu la logique et qui peut-être amène à des comportements différents. J'ai un petit peu l'impression, et beaucoup de gens, d'observateurs peuvent l'avoir, qu'il y a toujours une sorte de combat, de conflit latent entre, d'une part, le pouvoir de l'agglo, qui prend de plus en plus de pouvoir, et les maires qui résistent à cette prise de pouvoir parce qu'ils ont l'impression d'être un petit peu, presque déplumé pour certains. Et je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé récemment à Carcassonne Agglo, où la taxe foncière, c'est-à-dire ce qui permet à certaines communes d'avoir des recettes fiscales, a été augmentée, ou plus exactement, la part communautaire a été augmentée au détriment de la part communale. Le maire de la ville-centre de Carcassonne, M. Lara, était contre, mais il est minoritaire à Carcassonne-Agglo, et évidemment, ce projet est passé contre son gré. Et évidemment, ça crée des situations plus ou moins conflictuelles. Vous qui êtes à la tête d'une agglomération, comment voyez-vous ce genre de situation? Quel est votre ressenti et quelles leçons peut-être en tirez-vous?
Je n'ai pas à apprécier le mode de gestion ou le mode de management d'une agglo ou d'une autre. Je suis concerné que par celle du Grand Narbonne, et ce n'est qu'à ce cadre-là que je l'apprécierai. J'ai eu l'occasion, à ce micro et à cette émission, de déjà préciser quel était le rôle que je pensais être celui d'une communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération n'est pas, semble-t-il, là pour remplacer un maire, n'est pas là pour diriger une commune, n'est pas là pour décider au sein d'une commune d'un choix, d'un projet. La communauté d'agglomération est là pour être aux côtés des communes et accompagner les communes. C'est l'idée que je m'en fais et c'est ce que j'applique depuis maintenant plus de un an et demi. Donc, un projet d'une commune pour être cofinancé et présenté à l'agglo, et ensemble avec la commune, on va le travailler. La collectivité, la communauté de communes du Grand Narbonne, la communauté d'agglomération du Grand Narbonne, pour pouvoir vivre, va demander aux différentes communes de participer, mais il faut qu'il y ait un consensus. On ne peut pas forcer une commune qui représente le bassin de population le plus important ou le bassin économique le plus important, ou un des plus importants, de contribuer d'une manière forcée. L'idée que j'ai, c'est qu'il faut que tout le monde participe et ait même la même conception. Et s'il y a un bémol, il faut discuter pour arriver à trouver des arguments qui favorisent à aller dans un sens ou un autre. La conception de la gestion et du management d'une communauté d'agglomération passe, à mon avis, par un consensus le plus large possible. Et surtout, que le bassin de population qui va être concerné ne soit pas celui qui soit le plus important par rapport à la communauté d'agglomération.
Donc, c'est une notion d'équilibre en sachant que tout équilibre est précaire et remis en cause continuellement.
Oui, mais la précarité n'est pas liée au temps. La précarité est liée au sujet. Et effectivement, tout sujet nécessite une discussion. Et ce consensus peut être variant pour un sujet et pour un autre.
Voilà. Mais peut-être c'est là-dessus qu'on va conclure.
Et on peut en reparler si vous le souhaitez, Jean-Claude.
Absolument.
Si ça intéresse vos auditeurs. On va ouvrir un champ de discussion et on va dire à vos auditeurs, écrivez à Jean-Claude Jules pour lui dire quels sont les sujets que vous souhaiteriez que votre agglomération, à travers son président ou un de ses élus, aborde à cette antenne.
Absolument. Ben, c'est une excellente proposition.
Merci,
et je vous remercie en tout cas.
Merci à vous encore, tous mes voeux à tous.
Monsieur le maire et président donc de l'agglomération du Grand Narbonne, d'être venu entamer cette saison 2022 et justement d'avoir répondu à toutes ces questions. Et comme vous l'avez souligné, on est loin d'avoir épuisé le sujet et les sujets, et on se retrouvera très prochainement. Merci à vous.
Merci.
Et merci aux auditeurs de nous avoir suivis sur cette première émission de l'année. Le prochain invité sera Marc Azéma, archéologue narbonnais.